Alors ce soir, nous allons parler du canon du Nouveau Testament, puisque les deux premières soirées ont été consacrées à l'Ancien Testament. Ce soir, ce sera le Nouveau Testament. Et demain soir, nous parlerons de l'ordre des livres dans le canon. C'est pas, pour l'instant, on se penche sur l'identité des livres, pourquoi ces livres-là et pas d'autres. Et puis demain soir, la question sera pourquoi cet ordre-là dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et puis vendredi soir, on parlera sur la clôture du canon. Est-ce que le canon est vraiment terminé ou est-ce qu'on pourrait encore éventuellement y inclure certains livres? Et puis vendredi soir, je traiterai aussi toutes les questions que vous auriez posées par écrit dans la petite boîte qui est là à disposition. Alors ce soir, pour la formation du canon du Nouveau Testament, j'ai 4 points sur mon plan. D'abord, parler brièvement de la position libérale, qu'est-ce que les libéraux pensent sur la création de ce canon. Ensuite, la position traditionnelle ou la position orthodoxe. Ensuite, on discutera des livres qui ont été discutés. Donc, il y a certains livres dans le Nouveau Testament qui ont été discutés par les pères de l'Église. Est-ce que vraiment on doit inclure ce livre dans le canon ou non? Et puis, en dernier lieu, on parlera un petit peu des livres apocryphes du Nouveau Testament, en parlant des évangiles apocryphes, des actes apocryphes, et puis je mentionnerai juste alors les apocalypses aussi apocryphes. Il y a toute une littérature parasite qui n'a jamais été reconnue, mais enfin, qui existe et dont certains écrits sont parvenus jusqu'à nous. Alors tout d'abord, la position libérale concernant la formation du canon. La position est à peu près la même que pour l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'ils disent il y a une sorte d'évolution qui, bien sûr, a besoin de temps. Alors pour l'Ancien Testament, on avait beaucoup de temps, c'était pratiquement 1000 ans. Pour le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus comprimé, mais quand même, ils voient une certaine évolution qui, dans une première période au 19e siècle, a été fixée à 2 siècles et demi, et puis maintenant a été ramenée à 70 à 80 années. Donc leur idée, elle est formulée ainsi: dans un premier temps, Jésus a annoncé un message. Ce message a été repris par les apôtres, oralement. Ils ont prêché cet évangile à différentes communautés. À un moment donné, quelques personnes ont mis par écrit certaines de ces paroles, en particulier pour les évangiles, des paroles isolées qu'ils auraient entendues de la part soit de Jésus directement, soit des apôtres. Et puis plus tard encore, quelqu'un a mis, a rédigé un évangile, et on place l'évangile de Marc en premier parce que c'est le plus simple. Mais surtout, ne dites pas que ce soit Marc qui a écrit cet évangile. Ils diront, c'est une communauté qui était proche de l'évangile de Marc qui a rédigé cet évangile. Et puis ensuite, plus tard, on a repris cet évangile de Marc avec peut-être encore d'autres sources pour composer l'évangile de Matthieu. Mais ce n'est pas Matthieu qui a rédigé cet évangile, c'est une communauté qui était proche de l'évangile de l'apôtre Matthieu. La même chose pour Luc et la même chose pour Jean encore plus tard. Et Jean, bien sûr, doit venir en dernier, puisque c'est celui qui est le plus développé sur le plan théologique. Et au 19e siècle, on a placé la rédaction de Jean à peu près vers la fin du 2e siècle, début du 3e siècle. Donc pratiquement 2 siècles d'écart entre les paroles de Jésus et la rédaction de l'évangile de Jean. Et comme pour l'Ancien Testament, les libéraux disent à propos du Nouveau Testament, à propos des évangiles, que ces évangiles reflètent la foi d'une communauté. Mais est-ce que cette communauté a raison de croire ces choses-là ou pas? Ça, on ne peut pas se prononcer. On ne sait en fait jamais ce qui s'est réellement passé sur le plan historique. Tout ce qui nous reste, c'est cette foi des apôtres, et la manière dont on l'affirme laisse penser qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont inséré certaines de leurs idées dans ces écrits. Encore une fois, cite une, une prophétie, comme par exemple la destruction du temple, est annoncée, alors à coup sûr, disent les libéraux, on peut placer cet écrit après cet événement. Donc Jésus n'aurait jamais affirmé et annoncé la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Mais c'est simplement quelques disciples plus tard qui auraient mis dans la bouche de Jésus ces paroles. Leur position, bien sûr, détruit à la base toute l'autorité des évangiles. Bien sûr, pour les épîtres, ils disent, bon, c'est Paul qui a dit cela, et Paul, c'est un homme comme nous. Mais donc, ils rejettent d'emblée l'autorité que Paul aurait pu parler de la part de Dieu. Mais pour les évangiles, donc, à la base, on dit, ce n'est pas des personnes connues qui ont écrit ces écrits. Et ce qui est étonnant, c'est quand même qu'ils ont été acceptés par toute la communauté. Mais là, ils n'en parlent pas souvent. La raison pour laquelle les libéraux ont été obligés de ramener, de comprimer les dates, n'est-ce pas, parce que pour eux, plus il y a de temps qui sépare les paroles ou les actes de Jésus, la rédaction, plus leur théorie se justifie d'une certaine manière. La tradition orale aurait déformé le message du Christ. Et la raison pour laquelle ils ont dû ramener, par exemple, la date de l'évangile de Jean, à peu près de 250 après Jésus-Christ, à la fin du 1er siècle, c'est parce qu'on a découvert différents fragments, différents manuscrits de l'évangile de Jean, qui dataient du début du 2e siècle. On a retrouvé en Égypte un petit fragment de l'évangile de Jean, qui datait de l'an 130. Alors on s'est dit, bon, l'an 130, c'est en Égypte, il a fallu du temps pour que l'Évangile soit répandu jusqu'en Égypte, et actuellement, tous les libéraux placent la rédaction de l'Évangile de Jean à la fin du 1er siècle. Alors ça peut être 90, ça peut être 95, ça peut être 100, par là autour. Et ils étaient contraints, disons, de ramener l'Évangile de Jean à cette date, et bien sûr les autres, Matthieu, Marc et Luc, entre 70 et 90. Donc, en théorie, n'est-ce pas? Donc, les évangiles ont été écrits par des personnes anonymes pendant que les apôtres étaient en vie. Alors, ça paraît assez bizarre que ces évangiles n'ont pas reçu l'autorité des apôtres et pourtant ont été répandus partout. Maintenant, pour passer à la position traditionnelle, ou la position orthodoxe, qui a été la position de l'Église de manière unanime pendant plus de 18 siècles. C'est seulement au début du 19e siècle, avec le libéralisme, qu'on a commencé à imaginer d'autres choses. La position classique, elle est à nouveau très simple. Elle dit ceci, les apôtres, Jésus a parlé mais n'a rien écrit, mais par contre, il a promis de donner le Saint-Esprit à l'Église, mais tout particulièrement à ses apôtres, pour qu'ils puissent non seulement se souvenir de toutes les paroles qu'il avait prononcées, mais aussi que le Saint-Esprit les conduirait dans de nouvelles choses, qu'on trouve en particulier dans les Épîtres et dans le livre de l'Apocalypse. Donc, les apôtres ont repris l'enseignement de Jésus, d'abord oralement, et puis, à un moment donné, et les témoignages des pères de l'Église sont clairs à ce sujet et unanimes aussi. Ils disent qu'à un moment donné, Matthieu a rédigé son évangile. Un évangile destiné aux chrétiens de l'époque, qui étaient en grande majorité des juifs. Et on voit beaucoup d'éléments, beaucoup d'aspects, de caractéristiques dans l'évangile de Matthieu qui montrent que cet évangile est vraiment écrit par un juif pour des juifs. Et puis, quelques temps plus tard, en général, on place cet évangile, la tradition, les pères de l'Église placent l'évangile de Matthieu dans les 15 années qui ont suivi la mort de Christ. Puisqu'on dit qu'après ces 15 ans de ministère de Matthieu en Judée, Matthieu est parti ailleurs, je crois, en Asie, faire de l'évangélisation. Il faut dire qu'aussi à ce moment-là, il y avait une persécution de la communauté chrétienne en Judée, et puis les apôtres, certains, sont partis ailleurs. Donc, l'évangile de Matthieu a été écrit dans les 15 années qui ont suivi la mort de Christ. Et ce qui est important, à un moment donné, où tous les autres apôtres, ou presque tous les autres apôtres, étaient encore en vie, où les gens, pas les apôtres, mais les autres, qui avaient vu et entendu les paroles de Christ, pouvaient confirmer ces paroles de Matthieu, disant, mais c'est tout à fait ce que Matthieu écrit là, est tout à fait en accord avec ce que nous-mêmes avons entendu ou vu. Après Matthieu, il y a probablement Luc, qui, vers 30 ans plus tard, ça fait à peu près une place à peu près en l'an 60-62, après Jésus-Christ, Luc a décidé d'écrire un nouvel évangile. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que il a dit ce que Matthieu a fait était très bien fait. J'applaudis Dieu de l'homme, je souscris entièrement à ce qu'il a dit. Mais enfin, il a destiné son message à des Juifs. Or, la majorité de l'Église, maintenant, elle est formée de païens, des Grecs et d'autres. Alors, il est bon peut-être de décrire un nouvel évangile, pas pour changer ce que Matthieu a dit ou pour le contredire, mais peut-être pour souligner les choses qui intéressent tout particulièrement les païens. Nous faisons la chose de la même manière. Si je suis appelé à donner un message à des enfants, par exemple, eh bien, je vais orienter mon message d'une certaine manière. Si je l'adresse à des sportifs, ben, je vais dire encore d'autres choses. Le fond sera toujours le même. Ben, Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais je vais mettre l'accent sur d'autres places, je vais prendre d'autres illustrations, parce qu'elles correspondent mieux au public à qui je m'adresse. Et Luc a fait exactement la même chose. Ensuite, Marc a repris le flambeau quelques années plus tard. La tradition nous dit que Marc a écrit son évangile à Rome, sous l'autorité de Pierre. Alors vous me direz, mais encore pourquoi un nouvel évangile? Luc avait déjà fait le travail, et maintenant Marc qui reprend un nouvel évangile pour les païens. Eh bien, à nouveau, la communauté à laquelle Marc s'adresse est particulière. À Rome, entre l'an 64 et 68, la communauté chrétienne était fortement persécutée par l'empereur Néron. Néron, qui était un despote, un tyran, qui avait pu tuer plusieurs membres de sa propre famille, avait des désirs de grandeur. Il a dit, moi j'aimerais bien agrandir Rome. Mais le problème, c'est que Rome était déjà construite. Alors il a dit, il faudrait démolir quelques bâtiments. Simplement, les propriétaires n'étaient pas d'accord. Alors, il a dit, eh bien, c'est tout simple, on va se passer de l'autorisation des propriétaires. Et un jour, il a demandé à quelqu'un de mettre le feu à un quartier de la ville. Ce jour-là, un vent violent a soufflé sur la ville et l'incendie s'est répandu au-delà de ce que Néron avait prévu et une grande partie de la ville a été détruite par incendie. Très rapidement, les soupçons se sont portés sur Néron parce qu'on connaissait ses projets, on connaissait son caractère et très rapidement, donc, les gens ont commencé à accuser Néron et ça sentait mauvais, le brûler pour lui, c'est le cas de le dire. Et alors, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve un bouc émissaire. Et alors, il a accusé les chrétiens, il a dit, c'est les chrétiens qui ont, en fait, mis le feu à la ville. Et pour prouver qu'il avait raison, il a commencé à arrêter les chrétiens et à les persécuter. Et pendant cette période de 64 à 68, c'est pendant cette période que Paul, mais aussi Pierre, sont morts en martyr à Rome. Donc, les chrétiens ont beaucoup souffert. Alors, quand vous souffrez, vous avez des questions particulières qui sont sur votre cœur. Par exemple, est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant? Est-ce que le Christ est tout-puissant? C'est pas normal, l'ennemi semble avoir l'avantage. Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Est-ce que le Christ est tout-puissant? Et puis s'il est tout-puissant, pourquoi est-ce que moi je dois souffrir? Donc des questions qui sont tout à fait normales. Or, l'évangile de Marc reprend certains aspects de Luc et de Matthieu qui tout particulièrement peuvent aider cette communauté qui vit en souffrance à vivre sa foi. Et si vous lisez attentivement l'évangile de Marc, vous verrez que dans la première partie de l'évangile, il n'y a pratiquement que des miracles. Il y a très peu de discours dans Marc, mais il n'y a que des miracles. Un miracle, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Pourquoi? Pour souligner que Christ est tout puissant, qu'il pouvait guérir de multiples manières. Christ est tout puissant. Et puis, à un moment donné, il y a un tournant dans cet évangile de Marc, et le tournant est lorsque Pierre confesse le Christ. C'est pas Jésus qui dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Après, il demande à propos des autres, puis ensuite, « Et toi ?»« Qui dites-vous que je suis ?» Ou « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dit, « Tu es le Messie. » Et à partir de ce moment, Jésus commence après à annoncer un nouveau message. Et c'est le message de la croix. Il dit, je dois aller à Jérusalem. Et là, on voit que Pierre n'a pas du tout compris la chose. Il dit, mais jamais, jamais, Seigneur. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est pas, c'était la douche écossaise. Bravo, Pierre. Malheur à toi, Pierre, d'avoir dit ces choses. Et donc, dans la deuxième partie de l'évangile de Marc, il y a différentes paroles du Christ où il annonce à plusieurs reprises, je dois aller à Jérusalem, je dois souffrir, et celui qui veut être mon disciple doit prendre sa croix et me suivre. Et donc, il y a ce message que le Christ a annoncé, que le disciple devra suivre son maître. Et si le disciple peut parfois accomplir des miracles, parfois aussi, il va souffrir. Et donc, cela ressort très fortement dans l'évangile de Marc, cela ressort dans Matthieu et dans Luc, mais parce que dans Matthieu et dans Luc, il y a d'autres éléments, des paraboles et d'autres récits, je dirais que cela ressort moins clairement. Mais chez Marc, alors, c'est vraiment limpide. Et donc, Marc a fait un résumé, un condensé, pour des gens qui vivent à Rome. Les Romains, ce n'étaient pas des philosophes, c'était des gens terre à terre. Il ne faut pas trop leur casser les oreilles avec toutes sortes de récits. On va aller droit au but. Et puis, l'évangile de Marc leur convenait tout à fait. Et puis ensuite, plus tard, il y a eu l'évangile de Jean. Alors, pourquoi est-ce que Jean a encore une fois écrit un évangile? Eh bien, parce que il y avait différentes hérésies qui avaient cours à Éphèse, où résidait Jean. Certaines hérésies, entre autres, qui niaient la divinité de Christ. Et Jean veut, en quelque sorte, souligner tout particulièrement les paroles de Christ qui soulignent sa divinité. Et vous trouverez dans l'évangile de Jean beaucoup d'affirmations extrêmement fortes concernant la divinité de Christ. Et si vous devez discuter avec des témoins de Jéhovah, par exemple, qui nient la divinité de Christ, moi je prends toujours les écrits de Jean, parce que c'est eux qui contiennent les affirmations les plus claires. Et puis Jean a voulu compléter, en quelque sorte, ce qui ne se trouvait pas dans les synoptiques. Et c'est très intéressant de lire l'évangile de Jean en ayant, en quelque sorte, un œil dans les synoptiques, donc qui sont formés par Matthieu, Marc et Luc, et de voir comment ils complètent ces messages. Les évangiles ont été acceptés à l'unanimité, sans la moindre discussion, par toute la communauté chrétienne. Tout le monde disait Matthieu, ben oui, ou le premier évangile, ben oui, c'est Matthieu. Tout le monde était convaincu, alors même que l'évangile ne portait pas son nom, tout le monde était convaincu que c'était Matthieu, l'apôtre, qui avait écrit cet évangile. De même pour Marc, de même pour Jean, et de même pour Luc. Aucune discussion à ce sujet. On verra que pour d'autres livres du Nouveau Testament, il y avait des discussions. Ce qui montre que la communauté primitive n'était pas sous une autorité pesante et écrasante qui empêchait les questions d'être posées. Mais si un père de l'Église avait un doute, une question, une interrogation, alors, très librement, il écrivait à un collègue pour lui dire « Écoute, j'ai un petit problème là-dessus, ou j'ai une question à poser, est-ce que tu peux m'éclairer ?» Mais par rapport à l'identité des quatre évangiles, il n'y a jamais eu le moindre doute. Tout le monde était convaincu qu'il venait des apôtres, enfin pour Matthieu et pour Jean, et puis d'associer les apôtres pour Marc et pour Luc. Bon, ça c'est pour les évangiles. Pour les épîtres, eh bien on sait que Paul a écrit des lettres et que ces lettres, il les a en général, elles ont très rapidement circulé. Paul a écrit une lettre aux Corinthiens, mais enfin, cette lettre n'est souvent pas restée à Corinthe, elle a circulé. On sait par exemple que dans l'épître aux Colossiens, dans la fin de l'épître aux Colossiens, Paul donne cette recommandation, il dit au verset 16, « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et vous lisiez également celle qui vous arrive de Laodicée. » Donc, il écrivait différentes lettres et ensuite il recommandait aux églises qu'elles se passent ces lettres pour qu'ils puissent les lire. Et donc, les lettres de Paul ont très rapidement circulé dans la communauté primitive. Elles ont aussi été rapidement regroupées dans un recueil, le recueil des lettres de Paul, pour qu'elles se perdent moins facilement, n'est-ce pas? C'est plus facile d'égarer une feuille que d'égarer un livre, par exemple. C'est déjà plus important. Alors, on a très rapidement mis ces différentes lettres de Paul ensemble et elles ont circulé ensemble. Bien sûr qu'il y a un petit problème qui se pose parce qu'il semble quand même que quelques lettres de Paul se soient perdues. Entre autres, cette lettre des Laodicéens que Paul demande aux Colossiens de lire, on ne l'a pas, cette lettre des Laodicéens. Alors peut-être que cette lettre des Laodicéens, c'est la lettre des Éphésiens. Parce que si vous regardez la lettre de l'Épître aux Éphésiens, c'est une lettre assez générale, il y a très peu de nouvelles personnelles. Et c'est possible que Paul ait repris le corps de cette épître et qu'il ait simplement changé l'adresse, en quelque sorte, les salutations et les quelques mots de conclusion pour adresser la même lettre à l'église des Laodicéens. Enfin, c'est une supposition et on ne peut pas aller plus loin puisqu'on n'a pas, on n'a jamais retrouvé cette lettre écrite aux Laodicéens. Il y a une autre lettre qui a été perdue, qui a été écrite par l'apôtre. C'est la première épître aux Corinthiens. Vous savez que la première épître aux Corinthiens, en fait, c'est pas la première épître. C'est pas une épître veut dire lettre. En fait, c'est en tout cas la deuxième. Parce que dans notre première épître aux Corinthiens, qu'on appelle la première, Paul, à un moment donné, dit au chapitre 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Alors, c'est chapitre 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Alors, vous dites, comment ça? Je viens de lire les cinq premiers chapitres, et puis il n'a rien dit sur les débauchés. Alors, vous reprenez la lecture pour voir si vous avez été inattentif, et puis non, il ne parle pas des débauchés. Et pourtant, dans sa lettre, il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » La seule manière d'interpréter ce texte, c'est de dire que Paul avait écrit, avant cette première épître aux Corinthiens, une autre lettre aux Corinthiens dans laquelle il parlait des relations, de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Mais cette lettre, cette toute première épître aux Corinthiens, elle a été perdue. On ne l'a pas. C'est pour ça que l'épître aux Corinthiens... qu'on a appelé un Corinthien, on l'a appelé un Corinthien, puisque la première qui nous est parvenue. Les lettres de Paul ont rapidement circulé dans l'Église primitive, elles ont formé un recueil, et très rapidement, on a considéré que les lettres de Paul étaient autoritaires au même titre que les autres textes de l'Ancien Testament, que les textes inspirés. Par exemple, Pierre nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet, dans 2 Pierre 3, 16. Il dit d'abord au verset 15, 2 Pierre 3, 15, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc, Pierre parle d'un enseignement de Paul. Il dit, considérez la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui était donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Et Pierre place ici, donc c'était avant l'an 68, place les lettres de Paul sur le même rang que les autres écritures, c'est-à-dire le canon de l'Ancien Testament. Et puis il nous dit entre autres une autre chose qui nous réconforte un petit peu, c'est que Pierre lui-même avait de la peine à comprendre parfois les lettres de Paul. Alors si vous avez la peine à comprendre les lettres de Paul, soyez réconfortés en sachant que Pierre aussi avait ses difficultés. On a un petit peu dit comment les choses s'étaient passées. Donc, les apôtres ont enseigné des messages sont adressés à des foules, et puis ensuite Paul a écrit, donc il a mis une partie de son enseignement par écrit. Les apôtres ont parlé de Jésus à un moment donné. Matthieu a mis tout cela par écrit, suivi par Luc, et par Marc, et ensuite par Jean. Et ces écrits ont abondamment circulé dans l'Église. Et ils ont été reconnus comme une autorité. Alors, le critère fondamental pour l'autorité, pour la canonicité, en quelque sorte, pour qu'un écrit du Nouveau Testament soit reconnu canonique, c'était la personnalité de leur auteur. Bien sûr que le point fondamental, c'est qu'elles soient inspirées. Mais comment savoir les lettres qui sont inspirées? Alors, l'Église primitive a dit, eh bien, ce sont les lettres qui nous proviennent des apôtres, que l'on peut considérer comme vraiment autoritaire, normative pour notre foi, puisque c'est cela que Dieu, que le Christ a choisi. Alors, parmi les apôtres qui ont écrit des lettres, il y avait Matthieu, Jean, Pierre, donc trois des 12 disciples. Judas s'est entendu, il en restait 11, et sur ces 11, trois ont écrit des textes, Matthieu, Jean et Pierre. À cette équipe de 11 apôtres est venu se joindre un 12e apôtre, non pas celui qui avait été choisi en tirant au sort dans Acte 1, Matthias, mais l'apôtre Paul, que Dieu a choisi de manière tout à fait particulière. Et les autres apôtres, après un premier temps, ils étaient un petit peu méfiants, parce qu'ils avaient entendu parler de Paul qui dévastait les églises, ils ont tendu la main d'association à Paul, et ils ont reconnu que Paul avait reçu la part du Seigneur, un ministère comme le leur, en particulier adressé et destiné pour les païens. Donc Paul a rejoint la petite équipe des apôtres. Et donc ces écrits ont aussi été reconnus comme autoritaires au même titre que les autres. Ensuite, il y a deux autres personnes qui ont reçu un stade identique aux apôtres. Il s'agit de Jacques et de Jude, les frères de Jésus. Alors Jacques ici et Jude, il y avait un disciple, même deux qui s'appelaient Jacques et Jude, il y a aussi un disciple qui s'appelait Jude, mais ce ne sont pas les disciples Jacques et Jude qui ont écrit les épîtres de Jacques et de Jude, mais ce sont les frères du Seigneur qui étaient incroyants durant la vie du Christ sur terre, mais se sont rapidement convertis après. Jacques s'est même converti entre le temps de la résurrection et de l'ascension. Et Jacques est devenu un des chefs de l'Église primitive. On le voit en fait être associé à Pierre et à Jean aussi dans le ministère et la direction de l'Église primitive. Et donc, les écrits de Jacques et de Jude ont été reconnus par l'Église primitive comme normatifs, puisqu'ils étaient les frères du Christ et qu'ils s'étaient ensuite convertis et qu'ils étaient aussi proches des événements. Restent Marc et Luc, qui ne sont pas apôtres. Mais les écrits de Marc et de Luc, en fait, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc et les livres des Actes, ont été inclus dans le canon parce qu'ils reposaient sur l'autorité de Pierre et de Paul. En effet, les pères de l'Église nous disent que Marc, quand il a écrit son évangile, en fait, il a écrit l'évangile de Pierre. Pierre enseignait à Rome dans les années 64 à 68, ou un petit peu avant aussi. Et donc, Marc était un fidèle compagnon de Pierre à cette époque-là. Et Marc a mis par écrit pour Pierre l'essentiel de son message. On sait, je vous dirai dans un instant pourquoi, on sait que Pierre n'était pas un très bon écrivain. Il n'avait jamais suivi les grandes écoles. Alors, il a écrit une deuxième épître de Pierre en particulier, qui est vraiment dans un style assez rocailleux. Et peut-être pour cette raison, il s'est dit, je suis limité en quelque sorte dans mes capacités littéraires, mais j'ai un message important à dire. Et alors, il s'est sans doute appuyé sur le talent de Marc pour écrire l'évangile de Marc. Et si vous lisez attentivement l'évangile de Marc, vous verrez toutes sortes de caractéristiques qui reflètent la personnalité de Pierre. Et d'ailleurs, le point tournant de cet évangile, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confession de Pierre, pas qui est au centre de l'évangile de Marc. Et donc, l'autorité de Pierre est là derrière. Et l'Église primitive, à nouveau, sans la moindre discussion, a reconnu que Marc rapportait un évangile qui est autoritaire parce que Pierre avait en quelque sorte signé ou donné sa approbation à cet écrit. On pourrait, s'il fallait faire un rapprochement, on pourrait dire si un directeur est très occupé, qu'il a une bonne secrétaire, que la secrétaire le connaît bien, parfois il dit, écoutez, vous allez répondre à telle personne, et puis dans cette direction, de telle et telle manière, elle lui donne juste deux, trois idées. Et la secrétaire va rédiger la lettre, le directeur va la soumettre au directeur qui va la relire et dire, c'est en ordre, et il signe. Alors, qui a écrit cette lettre? C'est le directeur ou est-ce que c'est la secrétaire? Bon, c'est la secrétaire qui l'a écrit, mais le directeur approuve pleinement et totalement ce qui s'y trouve, puisqu'il a posé sa signature. Et c'est un petit peu la même chose qui s'est passé pour l'évangile de Marc. Pour l'évangile de Luc, même scénario, mais cette fois c'est Paul qui est derrière l'évangile de Luc, ou les écrits de Luc, que ce soit l'évangile ou le livre des Actes, qui à l'origine formait un seul ouvrage. D'ailleurs, on voit bien, en lisant l'introduction de l'évangile de Luc et l'introduction du livre des Actes, que le livre des Actes forme la suite, que tous les deux sont adressés à un certain Théophile, et en fait, c'est simplement deux parties du même ouvrage. Et Paul, qui était suivi en quelque sorte par Luc, a donné son approbation à ces deux écrits. Ce qui fait que dans l'Église primitive, tous les ouvrages qui sont dans la colonne du centre, c'est-à-dire Matthieu, Jean, la première épître de Jean, 1 Pierre, les 13 épîtres qui sont signés par Paul, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc, le livre des Actes, tous ces livres ont été acceptés à l'unanimité sans la moindre discussion dans l'Église primitive. Mais pour les autres livres qui sont indiqués dans la colonne de droite, il y a eu quelques discussions. Il s'agit de 2 et de 3 Jean, de 2 Pierre, de Jacques, de Jude et de l'Épître aux Hébreux. Il y avait quelques questions légitimes et on verra pour quelles raisons. Tout d'abord, les Épîtres de Jean. Les Épîtres de Jean, c'est des épîtres minuscules, n'est-ce pas? Et non seulement c'est des épîtres minuscules, mais ce sont des épîtres qui sont adressés à des individus et non pas à des communautés. Alors, si, n'est-ce pas, quelqu'un écrit une lettre à tous les membres qui se réunissent à Glion, eh bien, cette lettre, il faudra la prendre ici, sur le podium, et la lire à tous. Elle est tout de suite connue par tous. Elle bénéficie, en quelque sorte, d'une publicité particulière. Mais si l'un d'entre vous reçoit une lettre, ben, vous n'allez pas venir ici puis la lire à tous. Peut-être un ami, éventuellement. Et donc les deux épîtres, la deuxième et la troisième épître de Jean, qui étaient adressées à des privés, elles ont circulé moins rapidement. Et donc elles étaient moins connues dans l'Église au IIe siècle, par exemple. Ce qui fait que quand certains pères de l'Église parlent des écrits des apôtres, ils mentionnent les écrits qui sont indiqués dans la colonne du centre. Quand ils parlent de Jean, ils disent, ben oui, Jean, il a écrit son évangile et puis son épître, la première épître. Mais certains ne mentionnent pas la deuxième, la troisième, parce qu'ils n'en avaient pas eu connaissance. Mais plus tard, quand les églises ont pris connaissance de ces deuxième et troisième épîtres de Jean, ils ont dit, mais c'est tout à fait le même style que Jean, on sait que ceux qui les ont reçus nous attestent qu'elles viennent de Jean, et donc elles ont été acceptées dans le canon. Concernant la deuxième épître de Pierre, il y avait un problème. Puisque certaines églises avaient reçu dans un premier temps la première épître de Pierre. Et puis un peu plus tard, assez rapidement, ils reçoivent une deuxième épître de Pierre. Mais le problème, c'est que le style entre 1 Pierre et 2 Pierre était très différent. 1 Pierre, c'était un style poli, bien soigné. Et puis, la deuxième épître, c'était un style rude. Alors on s'est dit, voyons, Pierre... on pourrait mieux comprendre l'inverse, n'est-ce pas? Quelqu'un qui suit des cours de littérature améliore son style, mais là c'est l'inverse. un style limpide pour commencer, puis ensuite un style assez difficile à lire et à comprendre pour la deuxième épître. Alors, les pères de l'Église ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut vraiment accepter cette deuxième épître comme venant de Paul, de Pierre? Et on voit que la communauté primitive ne croyait pas les yeux fermés. Ils disaient, mais pour accepter un livre comme normatif, il faut être à 100% convaincu qu'il y a vraiment des apôtres. Si on a un petit doute, il faut le rejeter. Alors, avant d'accepter cette deuxième épître de Pierre, il faut être absolument convaincu. Or, si vous lisez attentivement 1 Pierre, vous trouverez tout de suite la solution à cette difficulté. Puisque à la fin de l'épître de 1 Pierre, au chapitre 5, verset 12, Pierre dit, c'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Donc Pierre dit, je me suis servi d'un secrétaire pour écrire cette épître. Alors que dans la deuxième épître de Pierre, peut-être que Pierre avait suivi les cours de correspondance et puis se sent un peu plus à l'aise pour écrire et s'est dit, je vais m'y lancer. Ou peut-être qu'il n'avait plus de secrétaire à disposition. Enfin, il a écrit cette lettre probablement de sa propre main. Alors on peut déplorer le style, mais on peut se réjouir du contenu. Et le contenu est toujours plus important que la forme. Alors nous reprenons notre parcours avec les trois derniers livres de la Bible du Nouveau Testament qui ont posé quelques problèmes. Il s'agit de l'épître de Jacques. L'épître de Jacques a été discuté parmi les pères de l'Église, non pas en ce qui concerne son authenticité ou sa connaissance, elle était bien répandue et bien connue dans l'Église, mais parce qu'il semblait que cette épître contredisait certains enseignements de Paul.